les autres
des
aussi.
Autres, tout ouais. Ça, là.
Je l'ai tout, vous, là. Je l'ai tout manqué. Ben, hey, merci à Monique qui a fait mon masque.
Oh là là.
Okay, bye.
Bye.
Merci à ma sœur. Je
te tiens informé toute la semaine.
Oh, et ses lèvres plus
bonnes. Il faut y aller, Gravel.
Stop avec Gravel, 7h45. Oh. Le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous ce soir. Tellement content de te jaser. Tu as fait un beau voyage en Israël. Moi, j'ai été faire un tour Floride, Honduras, Mexique, Bahamas, Floride. On n'était pas dans la même destination, mais visiblement, on a passé les deux de beaux voyages dans les dernières semaines. C'est bien le fun de te retrouver ce soir. Hey, François Legault qui décide de démissionner aujourd'hui, ça a été annoncé ce matin. Ça a été quoi tes premières pensées en tant que directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables? On va-tu avoir un break?
Est-ce qu'on va avoir un break? Ça, c'est une très bonne question. C'est sûr que François Legault, il laisse un leg derrière lui qui est assez impressionnant. Je veux dire, au niveau de sa carrière politique, il a quand même pas commencé hier à être présent à l'Assemblée nationale. On se rappelle qu'il a commencé avec le Parti québécois dans les années 90. Après ça, il a continué, il est parti en 2010, il est revenu avec la coalition Avenir Québec en 2012. Il a travaillé fort pour ramener son parti éventuellement au gouvernement en 2018, puis il est resté attaché au gouvernement jusqu'à aujourd'hui, ce matin, à 11h, il a fait sa conférence de presse, il annonce cette démission. C'est assez particulier. Puis le pire, c'est que je vais être honnête, autant que j'ai quand même une sympathie pour l'homme ou n'importe quelle personne qui va en politique, qui se dévoue à ce point-là. D'un autre côté, c'est sûr que il a fait des bonnes choses pour les contribuables dans une certaine mesure, puis des très mauvaises pour d'autres. Je pourrais parler longtemps de la dette, je pourrais parler de l'augmentation des dépenses dans la fonction publique, je pourrais parler du nombre de fonctionnaires dans la fonction publique qui a augmenté drastiquement, mais je peux aussi souligner qu'il a fait quelques gestes ici et là pour les contribuables. On se souvient de la baisse d'impôts d'un point de pourcentage, on se rappelle aussi de l'harmonisation des taxes scolaires. Il y a aussi eu l'élimination du prix plancher sur l'essence. Ce sont tous des choses pour lesquelles la FCC a milité pendant quand même un bon moment, là, des années même, pour que ça arrive. Et finalement, la récente annonce qui avait été faite par France-Hélène Duranceau quant à la réduction du nombre d'effectifs dans la fonction publique, ben, on a mis de la pression pour que ça se fasse et on est content que il y a éventuellement une écoute de sa part. Donc, tu sais, je peux saluer les bons coups, je pourrais saluer les mauvais coups. On peut parler de la filière électrique pendant des heures, si on veut. On peut parler de tous ces éléments-là, mais à la fin, sa démission était quand même prévisible. Ça, il faut quand même le mentionner. On le savait. Je pense que le dernier coup de couteau, si on veut, de Brutus à César, ça aurait été le départ de Christian Dubé. Je crois que ça aurait vraiment donné le ton pour la suite des choses. Maintenant, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'on a vu au fédéral l'an dernier? C'est-à-dire, on a une CAQ présentement au plus bas dans les sondages. On a un premier ministre qui démissionne alors qu'il y a déjà eu aussi des départs alentour de lui. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être déjà des divisions au sein de son caucus. Donc, il va avoir fort possiblement une course pour lui succéder. Est-ce que cette course-là va raviver la flamme de la CAQ pour ensuite leur donner un autre gouvernement en octobre prochain? Est-ce qu'il va y avoir des élections anticipées? Donc, tout ça, on ne le sait pas encore, dans la mesure où est-ce que tout va se régler avec l'arrivée d'un nouveau premier ministre ou d'une nouvelle première ministre? Tout ça, pour l'instant, on est vraiment dans les limbes, mais je crois qu'il y a des opportunités là-dedans avec ce changement-là de garde à la CAQ, où est-ce que peut-être que son successeur ou sa successeur va être un peu plus à l'écoute des contribuables et va faire le ménage qu'on espérait de sa part en 2018 et qu'il n'aura finalement pas livré.
C'est assez incroyable. Ce matin, dans le show du matin, je parlais avec des ingénieurs et c'est des chefs syndicaux là, pour ce qui est des ingénieurs au gouvernement du Québec. Et ils me mentionnaient qu'eux autres, ils constatent qu'il y a un déficit épouvantable au niveau de nos infrastructures, au niveau des rénovations, que ce soit en santé ou encore dans le transport. C'est catastrophique. Nos routes sont problématiques. Les ingénieurs me parlaient de ça ce matin. Puis moi, je pensais juste, parce que j'ai la chance de jaser régulièrement, Nick, je pensais juste à nous autres en tant que payeurs de taxes. On paye des taxes à n'en plus finir. On paye des impôts à n'en plus finir. Et là, on parle de déficit d'entretien avec des ingénieurs qui disent « Hey, savez-vous quoi? Tout est scrap autour de vous autres. » Puis on se relèvera pas de ça si on travaille pas plus fort, si on met pas d'argent là-dessus. Mais on dirait qu'en tant que contribuable, moi, je suis plus capable d'en donner, là. J'ai des amis qui sont autour de moi qui se posent des questions. Nick, à savoir, « Hey, moi, tu es capable de faire l'épicerie convenablement? Ah, finalement, cette marque-là, je l'aime bien, mais j'en prendrai plus. Je vais prendre plutôt une marque maison parce que ça va me coûter cher. » Puis là, tu apprends que les ingénieurs, ils sortent en disant « Hey, en santé, les infrastructures, ça va pas. En transport, les infrastructures, ça va pas. » Puis là, on peut regarder aussi un article qui a été écrit ce matin dans le Journal de Québec sur la hausse de salaire des sous-ministres qui ont franchi la barre des 400 000 $ par année. Entre 11 et 17 % pour certains, mais je pense que c'est 11 % en 2025. Là. Donc, c'est des gens qui ont eu des augmentations de salaire épouvantable. C'est comme si ça finit plus. C'est comme si on nous demande toujours de sortir plus d'argent, mais il n'y a rien qui se règle.
Effectivement, on paye, puis on paye, puis on paye, puis est-ce qu'on voit le retour sur notre investissement ou plutôt sur cet argent-là qu'on aurait peut-être préféré garder pour nous-mêmes tant qu'à voir les résultats de cette gestion-là, ben la question se pose elle-même. Mais oui, les infrastructures, ça, c'est ce qui me surprend le plus parce que, tu sais, on a toujours l'impression qu'il y a un sous-investissement en infrastructures, alors que la réalité, c'est qu'on a quand même un PQI, un plan québécois des infrastructures qui est mis à jour à chaque année, mais qui est un plan décennal, donc sur 10 ans. Et c'est peut-être le poste budgétaire qui a le plus augmenté là, dans les dernières années. Les dépenses en infrastructure ont augmenté quand même de 7 % dans la dernière année seulement. On est rendu avec un plan qui frôle les 170 milliards de dollars en dépenses d'infrastructure pour les 10 prochaines années. C'est pas comme si on n'investissait pas pour prendre soin, pour entretenir nos routes, pour construire des nouveaux ponts, des nouvelles écoles et autres, mais quand on regarde en fait la situation au grand complet, on se rend compte que les dépenses en infrastructure doivent être toujours vues d'un point de vue où est-ce qu'on dépense à la fois pour des entretiens, des nouvelles infrastructures, ou sinon c'est carrément juste pour des ajustements ou d'autres éléments comme tels. Mais après ça, quand c'est distribué dans les différents ministères, parce que bon, on veut pas, vous avez le budget en infrastructure pour l'éducation, le budget en infrastructure pour le transport. C'est là qu'on peut voir qu'il y a un problème. Peut-être pas juste dans les dépassements de coûts, mais dans le coût lui-même. On se rappelle de tous ces projets d'école qui vont frôler le 1,5 milliard dans certains endroits. On se dit, ça se peut pas là, qu'une école secondaire coûte aussi cher. C'est comment le processus d'appel d'offres est fait? Comment ça se fait qu'on se retrouve même avec des projets qui vont au-delà de ça en termes de coûts, alors qu'il y a pas si longtemps, on aurait pu faire ça pour une fraction. Et même si on va aux États-Unis, on peut trouver des écoles qui sont encore plus impressionnantes avec des plus grandes dimensions, mais qui ont coûté deux fois moins cher. Donc, éventuellement, il va falloir qu'il y ait peut-être pas une enquête ou une commission, là, mais il va falloir qu'il y ait un peu plus d'attention à comment est-ce que les dépenses en infrastructure sont soit priorisées ou sont déployées. Pour venir à ce que tu mentionnais maintenant, effectivement, on ne manque pas d'argent parce qu'on est capable de donner des augmentations de salaire faramineuses à des hauts fonctionnaires à répétition. Puis ça, malheureusement, c'est comme si on continuait à payer pour la décision qui a été prise en 2023 de la part du gouvernement de François Legault de signer des conventions collectives qu'on n'avait clairement pas les moyens de payer à ce moment-là en tant que contribuable collectivement. Des conventions qui vont nous coûter pas loin de 11 milliards au courant des prochaines années. Et donc, en octroyant des aussi grosses augmentations pour les employés de l'État à ce moment-là, ben par extension, on augmente aussi les salaires des hauts fonctionnaires et des mandarins de l'État. Et éventuellement, il va falloir peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut plafonner ces salaires-là? Est-ce qu'on peut geler les salaires de la haute fonction publique? On a parlé il n'y a pas si longtemps d'un gel des embauches. Ça fait pas loin d'un an qu'il y a un gel des embauches dans la fonction publique québécoise. Mais à quand un gel des salaires dans la fonction publique québécoise? Ça serait peut-être un élément à discuter, surtout qu'au Québec, en plus, on a la difficulté à garder le fil sur ces dépenses-là. La preuve, c'est que même le Conseil du Trésor ne sait pas combien va coûter l'augmentation des salaires de ces hauts fonctionnaires. Donc, les contribuables méritaient de savoir cette information-là. Et la meilleure manière de le savoir, c'est avec de la transparence. Puis la transparence, on peut l'obtenir avec, entre autres, une Sunshine List qu'on n'a pas au Québec. En fait, il y a trois provinces ou juridictions qui ne l'ont pas au Canada. C'est Ottawa, le Québec et l'île du Prince-Édouard. Puis une Sunshine List, c'est vraiment une liste complète de tous les fonctionnaires qui font plus de 100 000 par année. Ça permet aux gens, aux contribuables, de garder le fil sur le nombre de fonctionnaires, le coût de la fonction publique ou de la haute fonction publique et de justement se dire, bien, écoutez, quand on est rendu avec autant de personnes à avoir des salaires aussi importants et à profiter d'augmentations qui dépassent largement ce que les contribuables perçoivent de leur côté, ben, il est peut-être temps de donner le coup de barre nécessaire, il est temps de faire un ménage, il est temps de ramener de l'ordre dans ces dépenses-là. Mais pour l'instant, il semblerait, bon, on verra avec qui va succéder à François Legault, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un once de courage politique pour faire le ménage dans la haute fonction publique québécoise.
C'est bien, bon, on parle de capacité de payer des Québécois, on parle de gens qui ne veulent pas perdre de leur loisir. Là, c'est des augmentations de salaire de 17,4%. Tu vas me dire que c'est pour 5 ans, mais quand même, quand ça touche des salaires, que c'est, ça frôle le 400 000 $ Je regarde le sous-ministre le mieux payé là, au Québec. Il s'appelle David Bahan, qui est secrétaire général du Conseil exécutif et greffier, qui gagne maintenant 431 764 $ Stéphane Bergeron, qui est sous-ministre adjoint à la santé physique et pharmaceutique au ministère de la Santé et des Services sociaux, 419 254 $ Caroline Couache, qu'on connaît peut-être bien là, pour ceux qui suivent l'actualité, c'est une docteure, c'est une sous-ministre adjointe au ministère de la Santé des services sociaux et directrice nationale de la santé publique, 376 340 $ Horacio Arruda, 367 637 $ Il n'y a pas moyen de plafonner ces salaires-là à un moment donné, de dire, OK, ben pour nous autres, là, pour un bon 10 ans, ça va être un 250, ça va être un 350 ou ça va être un 400, mais plafonner ça, le temps que les gens puissent reprendre un peu le contrôle sur leurs finances. Parmi les hauts dirigeants universitaires, écoute, les salaires sont encore plus élevés. Mark Weinstein, qui est vice-recteur à l'avancement universitaire à l'Université McGill, très bonne université, soit dit en passant, à l'Université McGill, 792 617 $ par année. C'est-tu ça que ça vaut vraiment, un vice-recteur? C'est pas un recteur, un vice-recteur!
C'est une bonne question parce que généralement, le comparatif, il se fait avec le privé, essentiellement. Puis ça, c'est peut-être le problème ou l'erreur qui est trop souvent faite avec la fonction publique, c'est qu'on compare les salaires des hauts fonctionnaires avec des équivalences dans le privé ou avec les universités à charte, avec ce qu'on observe dans le reste du pays. Puis on se dit, ben si un recteur de telle université de Toronto, par exemple, fait 450 000 $ par année, ça fait du sens que on donne le même salaire à quelqu'un qui fait à peu près le travail équivalent à l'université au Québec. Mais la réalité, c'est que ben c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner comme tel. Surtout que faut quand même mettre ça en parallèle par rapport à la réalité des Québécois eux-mêmes. Là, parce que je regardais des faits là, sur le site du gouvernement du Canada sur les statistiques qui concernent les revenus des Québécois. Là, puis en 2022, là, on n'a pas loin de 4,4 millions de Québécois qui font 50 000 $ et moins. Donc, faut quand même... Tu sais, c'est près de la moitié des Québécois qui font un salaire qui est très loin de ce que c'est, toutes ces personnalités-là, qu'on parle des vice-recteurs, des recteurs d'université, qu'on parle des hauts gestionnaires dans la fonction publique ou dans les sociétés d'État font de leur côté. Et alors que, ben, qui paye ces salaires-là? Ben, ce sont les contribuables que j'ai énumérés. Là, quand, après ça, si on s'intéresse, mettons, à ceux qui font entre 50 000 et 100 000 $ par année, c'est à peu près 1,9 million de Québécois. Là. Donc, au final, on a quasiment 6 millions de Québécois qui font un peu moins, oui, 100 000 et moins, essentiellement. Donc, on voit à quel point la très grande majorité des Québécois ne sont pas dans cette condition économique, mais ce sont cette très grande majorité qui paye pour ces salaires-là. Il va falloir éventuellement qu'il y ait une discussion plus large sur comment ça se fait qu'on continue à payer des aussi gros salaires dans la fonction publique pour, disons-le franchement, là, je ne parlerai pas des universités, mais plus de la fonction publique comme telle, un résultat qui est de plus en plus médiocre en termes de résultats d'accessibilité, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau des infrastructures. On paye plus de salaires, on paye plus de fonctionnaires. Pendant ce temps-là, on a de plus en plus de gens qui en arrachent au Québec. Et il n'y a personne qui s'intéresse à cette inégalité-là qui est persistante. C'est drôle parce qu'à chaque année, dès le 1er janvier, on a un institut dont j'oublie le nom qui sort un rapport en disant « Vous voyez, cet après-midi du 1er janvier, il y a déjà des PDG d'entreprises privées qui ont fait le salaire complet d'un travailleur. » Puis bon, c'est vrai que c'est une inégalité qui vaut la peine d'être regardée en disant « Ça ne fait pas de sens. » Mais on devrait aussi s'intéresser à cette même dynamique-là dans la fonction publique et se dire, regardez, on est rendu au mois de mars, puis ces fonctionnaires-là ont déjà fait la plupart, ils ont déjà encaissé plus de revenus que ce que vous allez faire dans une année en termes de revenus vous-même. Et pourtant, c'est vous qui payez pour ces salaires-là. Donc, éventuellement, comme je disais tantôt, il ne faut pas juste s'attaquer au nombre de fonctionnaires, mais aussi à la rémunération, aux augmentations de salaire, mais aussi éventuellement à parler d'un plafonnement si on veut être en mesure de ramener de l'ordre dans les finances publiques. Puis oui, je veux dire, mettons les choses au clair, on distribue des augmentations de salaire aussi importantes alors qu'on a un déficit de 12,4 milliards à Québec, alors qu'on a été décoté, puis alors qu'on n'a pas de plan pour rééquilibrer les finances publiques. On n'a pas les moyens de payer ces augmentations de salaire, puis les contribuables sont ceux qui en arrachent le plus par rapport aux conditions économiques actuelles. Alors, il va falloir qu'on ait cette discussion plus importante.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est que quand certains politiciens disent « Oui, mais il faut faire des efforts. » Quelqu'un à qui on demande de faire des efforts là, au niveau monétaire qui gagne 450 000, il n'y a pas la même réalité que quelqu'un qui en gagne 30, que quelqu'un qui en gagne 40 ou 50 000. T'sais. Puis de ce que je vois autour de moi, des gens qui étaient dans la classe moyenne, Nick, ces gens-là sont sur le point de devenir, de descendre de classe. Donc ça va être la classe moyenne pauvre maintenant. Ça sera... c'est catastrophique. Là. Tu sais, les efforts qu'on demande à la classe moyenne puis à la classe pauvre, c'est pas les mêmes que tu demandes à quelqu'un qui gagne 450 000 par année. Fait qu'à un moment donné, des salaires aussi élevés, faudrait se poser la question, à savoir, on a-tu encore les moyens au Québec de donner à un vice-recteur 700 000 par année dans une université comme McGill? Ça n'a juste pas de sens.
Ça n'a pas de sens, puis tu l'as très bien dit. C'est éventuellement, il va falloir arrêter d'en demander aux contribuables. Tu sais, regardons toutes les autres politiques qui ont été passées par le gouvernement provincial ou par le gouvernement fédéral. Par exemple, son interdiction des voitures à essence pour 2035, où est-ce qu'il espère que vous allez avoir acheté une voiture électrique d'ici là. Donc là, bon, ils ont changé leur objectif. Finalement, c'est 90 % des voitures qui devront être électriques ou hybrides rechargeables en 2035. Mais bon, vous pouvez vous imaginer que les voitures à essence coûteront beaucoup plus cher rendues là également. Mais tu sais, dire à quelqu'un qui fait 450 000 $ par année de s'acheter une Tesla, c'est pas si compliqué.
Non.
Dire à quelqu'un qui fait 50 000 $ par année de s'acheter une Tesla, c'est pas la même game. Maintenant, on peut parler des autres taxes qui ont une implication un peu comme plus directe sur le coût de la vie ou sur le portefeuille des automobilistes. Par exemple, j'ai parlé tantôt de la taxe carbone. La taxe carbone, ça représente environ entre 400 et 500 $ par foyer si on prend en considération l'impact sur le prix de l'essence et l'impact sur tous les autres aspects de l'économie, que ce soit le prix alimentaire et autres. Bien, ce 500 $-là, il ne représente pas la même portion du budget de quelqu'un qui fait 50 000 versus quelqu'un qui fait 450 000. Donc, il va falloir que... C'est une des raisons pour laquelle nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on a embarqué sur ces enjeux-là. D'un, il y a une notion d'équité, il y a aussi une notion d'abordabilité, et il y a aussi le fait qu'on impose des politiques qui sont impopulaires, qui sont coûteuses à des gens qui en arrachent et qui sont de plus en plus pris à vivre d'un chèque de paie à un autre. Tout ça dans une dynamique économique qui est de plus en plus difficile. J'ai même pas parlé encore de la guerre commerciale avec les Américains, mais il y a aussi le fait que, si on se base sur le rapport qui a été publié par le Conference Board il n'y a pas si longtemps, qui nous disait qu'en 2026, le Québec va avoir la pire croissance économique de la Fédération canadienne. On a aussi un rapport sur les prix alimentaires qui a été publié il n'y a pas si longtemps, qui dit qu'au courant de l'année 2026, le prix du panier d'épicerie va augmenter de 1 000 $ pour une famille. Éventuellement, on ne peut pas demander aux contribuables de faire plus de sacrifices quand on est dans un contexte économique qui est de plus en plus difficile. Et pendant ce temps-là, on distribue des augmentations de salaires faramineuses à des hauts fonctionnaires qui, clairement, ne nous en donnent pas pour notre argent, qu'on regarde l'état de la fonction publique puis des différents dossiers qui sont gérés présentement.
François Legault est parti ce matin. On a un Charles Milliard qui va probablement être couronné comme chef du Parti libéral du Québec. On ne sait pas qui sera le chef de la coalition Avenir Québec dans les prochains mois. Du côté du PQ, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon est bien en selle. Du côté de Québec solidaire, bon, on n'en parle pas. Mais sur quoi devront se pencher les politiciens pour l'année 2026? Là. Année électorale où ils vont nous faire énormément de promesses. Là. En tant que directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables, t'aimerais entendre quoi de ces chefs de parti-là qui s'en vont en élection? Ils vont nous faire des promesses. Certaines seront réalisées, d'autres seront peut-être oubliées ou envoyées aux oubliettes intentionnellement. Ils devraient jaser de quoi en 2026, ces gens-là?
Ils devraient jaser de votre portefeuille. Quand je dis votre portefeuille, c'est celui des contribuables. C'est ça qui devrait être au centre d'attention de tous les politiciens. Je sais qu'au Parti québécois, on parle beaucoup d'indépendance, mais encore une fois, d'ailleurs, comment cette indépendance-là va permettre aux gens d'améliorer leurs conditions économiques, ça doit être exposé. Puis aussi, ben, ça, c'est pas une flèche d'aucune manière. Je reste non-partisan, puis j'espère qu'on va avoir beaucoup plus d'engagement au courant de la prochaine année. L'année est encore très jeune d'ailleurs, mais pour le PQ, j'ai hâte que les médias arrêtent de les challenger sur l'indépendance et qu'on les challenge davantage sur la gouvernance, parce que si jamais le référendum ne se fait pas ou qu'il échoue, ben, il y a quand même un parti au pouvoir qui doit gérer toutes les autres dimensions de la société québécoise. Le Parti libéral du Québec, j'ai hâte qu'on arrête de parler des brownies et qu'on voit c'est quoi les promesses du prochain chef, parce que Charles Millard, je le connais à peine, on l'a suivi un peu la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, mais même après 6 mois de Pablo Rodriguez, on ne savait même pas c'était quoi les orientations du PLQ, c'est dans quelle direction on s'en va, est-ce qu'on veut s'harmoniser avec le reste du Canada. Je donne encore l'exemple de la taxe carbone. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va finir par dire, ben, écoutez, nous, on va faire comme le reste du Canada, on va s'harmoniser, ou sinon, est-ce qu'on a un nouveau chef à la CAQ qui s'en vient, qui va être plus audacieux que François Legault, qui va dire, non, nous, on va la scraper avant même que qui que ce soit d'autre embarque sur cet enjeu-là, pour essayer de tirer le tapis sous le pied d'Éric Duhaime, par exemple, au Parti conservateur du Québec. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais ce qui doit arriver, c'est justement que les enjeux doivent toucher les contribuables. On doit parler de la portabilité. On doit parler de l'état des finances publiques. Il nous faut quelqu'un qui a les deux mains sur le gouvernail et qui nous rassure, à la limite, par rapport au futur qui attend les Québécois, qui vont nous dire, moi, je m'engage à arrêter de pelleter par en avant une dette de plus en plus lourde, qui nous coûte de plus en plus cher et qui nous prive de plus en plus d'une grosse marge de manœuvre pour, assurer, en fait, là, l'enrichissement et la prospérité des Québécois. Parce que quand on dit qu'on paye 10 milliards en intérêts par année sur la dette, ben c'est 10 milliards qu'on n'investit pas, c'est 10 milliards qu'on ne met pas dans les poches des Québécois, c'est 10 milliards qui ne sont pas là pour améliorer les services. Donc, bon, 10 milliards, mais ce n'est pas 10 chers milliards, là, mais ceci étant dit, j'ai très hâte de voir ce qui va se produire. J'espère aussi même que Québec solidaire va embarquer dans cette idée-là de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le fardeau fiscal. Je veux dire, durant les élections de 2022, il y a trois partis politiques, la CAQ, les libéraux puis les conservateurs, qui ont promis des baisses d'impôts. Mais le Parti québécois puis Québec solidaire ont au moins eu l'intelligence de dire on veut des baisses de taxes ou des gels de taxes sur des produits essentiels. Ben j'espère que tout ça va revenir. J'espère qu'on va continuer à avoir cette discussion-là, mais qu'on va aussi aller plus loin parce que le Québec est dans une impasse par rapport à son modèle, par rapport à ses finances, puis il va falloir qu'on aille... plus loin là, que simple quelques petites promesses populistes. Donc, bref, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve, ni qui va succéder à François Legault, parce que je pense que c'est ce qui va être le plus important. Celui ou celle qui va lui succéder va pas mal définir le narratif pour la prochaine année, puis celui des prochaines élections, puis les autres vont pas mal se tourner alentour. Donc, c'est pas mal ce que j'espère. Puis finalement, moi, être très honnête, je ne sais pas si j'espère un changement de gouvernement en octobre, mais j'espère que le gouvernement va changer.
Oui, puis tu sais, le successeur de François Legault, parce que là, de ce qu'on comprend, François Legault resterait en place jusqu'à l'élection d'un prochain chef. Tu sais, c'est Mario Dumont, c'est son nom qu'on entend le plus régulièrement comme successeur de François Legault, mais il veut absolument rien savoir de la politique actuellement. Fait son show du matin à Montréal, ça fonctionne vraiment bien. Vole des parts de marché au 98,5, puis avec raison, le show à Mario est excellent le matin. Lui, ça ne l'intéresse pas, la politique. J'ai hâte de voir, ça va être quoi le profil du nouveau chef ou de la nouvelle chef de la coalition Avenir Québec pour ce qui est des prochains mois. Puis, bon, on va s'en aller visiblement en élection avec ce chef-là. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Puis, tu sais, tu côtoies beaucoup de gens du milieu des affaires, Nick, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, à la grandeur du Canada. Puis, il n'y a rien de pire en affaires que l'incertitude économique. Puis, on regarde ce qui se passe avec Mark Carney qui s'en va faire de l'œil aux Chinois. On regarde ce qui se passe entre Mark Carney puis Donald Trump. Trump qui dit qu'il n'y a pas nécessairement besoin du Canada pour faire des affaires. L'annexion du Groenland, le Canada qui pourrait devenir le 51e État. Il semble que c'est assez particulier puis c'est stressant un peu. J'avais pas de cheveux blancs, moi, avant cette année, Nick. C'est stressant, l'incertitude.
Oui, mais c'est stressant, mais je pense que les Québécois, on est capable de faire preuve de résilience. Notre histoire le prouve. Puis c'est, tu sais, devant la peur, faut jamais céder. C'est sûr que l'incertitude, c'est surtout, ça affecte beaucoup le milieu des affaires parce qu'on s'entend que quand c'est le temps d'investir, quand c'est le temps de comment dire, d'amener des modifications à une entreprise ou à des transformations ou toute la discussion qui peut toucher une entreprise de quelconque secteur va être intéressée de part et d'autre au contexte dans lequel l'entreprise se trouve. Puis là, ben, au Québec, au Canada plutôt, at large, on a vraiment réalisé au cours de la dernière année à quel point on pouvait être effectivement affecté rapidement par les décisions de la Maison-Blanche. Puis ça, je pense que c'était le réveil brutal en 2025 d'un très grand nombre de Canadiens qui ont dit ben là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, si on entre dans une guerre tarifaire avec les Américains, on est cuit. Puis la réalité, c'est que bon, on peut effectivement résister, on peut renforcer notre économie, on peut mettre de côté toutes ces barrières interprovinciales qui nous nuisent dans notre commerce intérieur. Mais il y a aussi toute cette question de comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre compétitivité, notre productivité, parce que ce sont deux éléments qui peuvent nous nuire ou nous aider dans cette guerre commerciale. Et parce que pour l'instant, je ne peux pas dire que cette guerre-là va prendre fin de si tôt. On ne sait pas quand est-ce que Carney va finir par s'asseoir avec Donald Trump. Puis c'est malheureusement personne d'autre qui peut le faire dans les circonstances actuelles. Donc, s'il ne le fait pas, ben, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? Ben, comme on parlait tantôt des élections à venir pour 2026, je pense que justement, comment est-ce qu'on peut renforcer le Québec au niveau de sa compétitivité économique, de son attraction économique et d'avoir justement un cadre fiscal et réglementaire qui nous permet de maintenir ce qu'on a et d'améliorer nos conditions dans un contexte d'incertitude, ben ça, pour être très honnête, c'est ce qu'aucun politicien ou presque à travers tout le pays n'est en mesure de nous fournir. Là. À quelques exceptions près, j'ai pas l'impression là, qu'on a un seul politicien qui a un plan réel. Mark Carney disait qu'il y avait un plan, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se fait. On va être bons joueurs, on peut laisser de la marge, mais éventuellement, il va falloir se dire, ben, s'il ne livre pas la marchandise, qui va le faire? Ben, sinon, ben, c'est les provinces qui doivent tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de suivre la course à la succession de François Legault dans les prochaines semaines, parce que ça va être possiblement la question la plus importante après toutes celles que j'ai déjà énumérées. Mais oui, je pense qu'au-delà de la peur, il faut quand même qu'on entre plus en mode solution qu'en mode, ben, c'est la fin du monde, on baisse les bras, puis on se laisse absorber comme un nouvel État américain. Je pense qu'avant de se rendre là, il y a bien des choses qu'on peut faire pour sauvegarder ce qu'on a, puis améliorer ce qu'on a également.
J'ai entendu Stephen Harper, l'ex-premier ministre du Canada, dans un podcast, puis il semblait être quand même assez. Ben, il y avait de bons mots, en fait, pour Mark Carney au niveau de l'économie, puis il mentionnait que ce que Mark Carney a fait, il aurait probablement fait la même chose. Est-ce que c'est un Stephen Harper qui disait vrai ou c'était tout simplement pour mettre des bâtons dans les roues à Pierre Poilievre, dire un truc comme ça? J'ai trouvé ça très particulier. Puis en même temps, ben, t'sais, si tu le penses, pourquoi ne pas le dire, là, on va se dire. S'il trouve que Mark Carney fait une belle job, de votre côté, à la Fédération canadienne des contribuables, depuis l'arrivée en place de Mark Carney, qui a succédé à Jonathan, pas Jonathan, à Trudeau. Est-ce que à Justin
Justin.
Trudeau, est-ce que je pensais à mon ancien collègue Jonathan Trudeau, c'est pour ça. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une amélioration depuis l'ère Justin Trudeau?
Oui, puis non, c'est mitigé. J'ai commencé par le non. Comme on parlait des ententes commerciales, on fait sur place, il n'y a rien qui se règle. On peut aussi parler de la taxe carbone industrielle qui va être renforcée. On peut aussi parler comment dire, là, des déficits aussi là, qui sont encore très élevés au Canada. Veux pas, ça, c'est pas une amélioration par rapport à ce qu'on avait sous Justin Trudeau. Par contre, je vais être d'accord avec Stephen Harper sur certains éléments. Je veux dire, à la fin de la journée, Carney est arrivé, il est devenu premier ministre officiellement en mars 2025. Et la première chose qu'il a faite, c'est se débarrasser là, de l'augmentation, en fait, de la taxe carbone pour les consommateurs au niveau fédéral. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose pour laquelle nous, à la FCC, on militait ardemment pour que ça se fasse. Il y a aussi le fait qu'il a renversé la décision d'augmenter l'impôt sur le gain en capital. Ensuite, il a baissé les impôts sur le premier palier d'imposition de 1 point de pourcentage.
Ouais.
Après ça, il a décidé aussi de... le mot pipeline, le mot en P n'est plus tabou à Ottawa présentement. Puis il a ramené ce projet-là, même si on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire ni comment ça va se faire. Il a quand même ramené ça de l'avant, ce qui était carrément tabou pendant 10 ans sous Justin Trudeau ou presque. Là. Le seul pipeline qui avait été autorisé, c'était Trans Mountain. Puis c'était à peine une misère, puis ça va coûter pas loin de 35 voire 40 milliards de dollars aux contribuables pour que ça finisse par se faire. Donc, au final, c'est très mitigé, le bilan de Carney. On peut donner des plus, parce qu'il y a des choses que Carney a faites qui ne résonnent pas du tout avec le reste des libéraux. On l'a vu d'ailleurs avec Stephen Guilbeault quand il a claqué la porte, justement, parce qu'il n'était pas d'accord avec, justement... Il était déjà pas très content par rapport à la taxe carbone. Il était encore moins avec l'histoire du pipeline entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Tout ça étant dit, il y a du bon, il y a du positif, il y a du négatif. Personnellement, je trouve que c'est mieux que sous Justin Trudeau. Je vais me permettre un commentaire ici en disant qu'on a enfin l'impression d'avoir un adulte dans la pièce, mais maintenant, on aimerait ça que l'adulte livre des résultats. Peut-être qu'on est impatient, mais la réalité, c'est qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, il vaut mieux régler les choses rapidement que laisser les choses s'éterniser, parce qu'on a l'impression que même lui, même Trump, se désintéresse de tout accord commercial avec les Canadiens. Et ça, ben, à moyen long terme, ça pourrait nous faire très mal. Donc,
mais
c'est pour
pas
ça
un
que
moyen de négociation.
On va espérer que Carney se mette à la table de travail rapidement.
Ouais, c'est pas une façon de négocier de la part de Donald Trump d'ignorer le Canada pendant quelques semaines, quelques mois. Là, on voit un Mark Carney qui s'en va rencontrer les Chinois. Honnêtement, moi, j'ai plus d'affinité avec les Américains que les Chinois là, au niveau de mes idées sur la liberté. Mark Carney qui veut se rapprocher des Chinois pour tenter de diversifier son exportation. Il y a peut-être quelque chose de logique là-dedans. On va avoir de l'importation. Est-ce qu'il y a des véhicules chinois qui arrivent au Canada qui n'ont de le marché chinois? Est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied dans ce cas-ci? Parce qu'il y a quand même dans le secteur de l'Ontario, il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont en jeu. À partir du moment où tu fais rentrer les voitures chinoises à très bon prix, 30, 40, 50 000, des véhicules qui sont vendus ici, si on regarde des comparables, autour de 90, 100, 110, ça va couper le marché, puis pas à peu près. Tu sais, Donald Trump est au courant de ça aussi.
Ben, c'est ça. Ben, d'ailleurs, oui, on peut dire que c'est une stratégie de négociation parce que plus on attend, puis lui, il sait très bien que le Canada, on n'est pas à la même place que les Américains. Là. On négocie quand même avec le plus important empire économique et militaire de l'histoire de l'humanité. Là. Je veux dire qu'on parle pas, c'est quand même, c'est David contre Goliath dans une certaine mesure, puis il sait très bien que plus... on attend, plus une nouvelle guerre, plus on va être désespéré pour avoir à la limite ce qu'on espère obtenir, puis qu'on va être prêt à faire des concessions qui risquent peut-être de nous coûter cher. On sait très bien que, entre autres, la gestion de l'offre sur des produits laitiers, entre autres, va être sur la table des négociations. Le gouvernement de Carney peut dire ce qu'il veut, mais on s'en doute très bien que ça va être le cas. Mais donc, je pense que de nous faire attendre comme ça, puis de démontrer un désintérêt. Puis on peut s'imaginer aussi que la stratégie qui concerne le Venezuela, c'est d'aller chercher du pétrole ailleurs qu'au Canada, un meilleur marché pour les Américains. Donc, dans une stratégie plus large, ça pourrait peut-être même affecter notre secteur énergétique. Donc, je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on trouve la meilleure manière d'embarquer dans cette joute de négociation avec Trump, mais pour l'instant, de s'en éloigner et de se rapprocher des Chinois, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tant qu'à parler des voitures électriques, il faut rappeler que le gouvernement de Carney, même s'ils ont suspendu l'entrée en vigueur progressive de leur interdiction des voitures à essence pour 2035 ou de ce qu'on appelle le EV mandate, c'est toujours techniquement en vigueur à partir de 2027 plutôt que 2026. Et là, donc, d'une part, on dit qu'on veut peut-être enlever les tarifs sur les voitures électriques chinoises pour les laisser embarquer, entrer sur notre territoire pour être vendues. Mais on ne parle pas de retirer les quotas qu'on impose à nos entreprises, du moins les entreprises qui, bien sûr, localement implantés, qui ont encore ces quotas-là, puis ça inclut aussi des concessionnaires et tout ça, qui, eux, vont être pénalisés des deux côtés, pénalisés à cause des quotas qu'on leur impose au niveau fédéral et même provincial. Et en plus, ben, on les pénalise au fait qu'ils vont être en compétition avec des voitures électriques chinoises qui peuvent être vendues à bien meilleur prix. Donc, ça pourrait sonner la mort là, d'une industrie qui représente quand même plus de 150 000 travailleurs, là, je pense que pour la très grande majorité en Ontario, mais il y en a au Québec aussi qui vont être affectés. Puis ça, on peut malheureusement, on peut carrément pas se permettre de perdre ces emplois-là présentement, ni ces industries-là, parce que, je veux dire, à la fin, ça va créer tout un trou là, dans notre économie qui va être très dur à remplacer. Donc, si Carney est sérieux, en tout cas, moi, si j'étais à la place de Carney, le EV mandate devrait être scrappé au grand complet. On arrête avec les quotas de voitures électriques. Puis pour les voitures électriques chinoises, il va falloir vraiment regarder ça parce qu'on ne peut pas non plus se retrouver dans la même situation que l'Europe, où est-ce que les voitures électriques chinoises vont carrément inonder le marché et ça affecte les entreprises comme Volkswagen, Peugeot et compagnie qui démontrent des difficultés par rapport à cette compétition-là.
Effectivement. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, si on veut en savoir plus sur votre fédération puis lire ce que vous faites une fois de temps en temps parce que vous travaillez extrêmement fort. On fait quoi? On vous retrouve comment?
On nous retrouve directement sur www.contribuable.ca. C'est gratuit. Suivez nos pétitions, nos infolettres, infoactions et compagnie. On est également sur YouTube. On est également sur Twitter. Vous pouvez me rejoindre à commercial Le Vrai Gagnon. Je suis toujours accessible. Je suis toujours prêt à répondre aux questions des gens du mieux que je peux. Puis on est là aussi pour défendre tous les contribuables de manière non partisane. Comme j'ai dit, le mandat de la fédération est assez large. Que vous soyez de droite ou de gauche, vous pouvez vous y retrouver dans notre message ou dans les missions qu'on se donne et dans nos interventions. Et donc, sachez qu'on est là pour vous du mieux de nos compétences. Ça serait toujours un plaisir de parler au nom des contribuables. Puis d'ailleurs, si je peux mettre un peu l'eau à la bouche, il y a une consultation pré-budgétaire qui a été lancée par le gouvernement du Québec récemment.
Oui.
En vue du budget qui s'en vient, on va bientôt envoyer un courriel à tous nos sympathisants, tous les supporters qui ont signé, qui embarquent sur notre site, justement pour les informer sur comment ils peuvent remplir le questionnaire et s'assurer est-ce qu'au prochain budget, on a un plus petit déficit puis qu'on ait aussi des baisses d'impôts et peut-être d'autres types d'allègements qui pourraient être très intéressants pour tous les contribuables. Mais
vous allez être présent aux consultations prébudgétaires? Vous allez proposer un mémoire?
Oui, j'ai un mémoire d'une trentaine de pages qui est déjà rédigée, mais là, j'avoue franchement qu'avec la démission la démission de François Legault, j'ai l'impression de revoir ce qu'on a vu avec Justin Trudeau parce qu'il faut se rappeler que Justin Trudeau a démissionné en janvier, puis au lieu d'avoir un budget en mars ou en avril, on a eu une élection. Fait qu'on s'est retrouvé avec un budget à l'automne. Fait que là, j'ai peur d'avoir rédigé 30 pages de mémoire prébudgétaire pour rien en disant, ben, ça se peut qu'il y ait une élection à la place ce printemps, puis que finalement, on se ramasse à l'automne prochain, puis tous les chiffres de mon rapport tiennent plus la route. Mais en même temps, bon, si c'est le cas, ça ne va pas tant me déranger. J'en écris un nouveau, mais j'ai essayé aussi de me glisser dans les consultations prébudgétaires. Sinon, il y a une consultation publique que les gens sont généralement pas au courant de ces informations-là. Puis nous, notre travail, c'est de s'assurer que monsieur et madame tout le monde qui n'est pas nécessairement le plus informé dans la mesure où c'est la communication du gouvernement ne se rend pas toujours à eux directement, bien que nous, on leur facilite la tâche pour qu'ils puissent se faire entendre, pour que le prochain budget prenne en considération leurs attentes.
Tu travailles fort, toute la Fédération canadienne des contribuables travaille fort. On vous remercie d'être là pour défendre nos impôts et nos taxes qu'on envoie au gouvernement, puis tenter une fois de temps en temps de nous en laisser un peu plus d'impoche. Salut Nick!
Toujours un plaisir, à bientôt.
Nous, on s'arrête et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Retrouvez tous les podcasts de Boulevard 102.1, nos entrevues et nos meilleurs moments sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Découvrez nos podcasts originaux.
Les grands événements de Québec avec Denis Gravel.
Classe à part avec Sylvain Dancause.
Sextape avec Audrey Pinchot.
Le Roadcast avec Samuel Tremblay-Michaud.
Le podcast de Gravel dans le retour.
Et bien plus.
Les intellectuels, ça part.
Réécoutez aussi les grands rendez-vous de Boulevard 102.1.
Le Pit Stop de Denis Gravel.
Le caucus avec Anthony Niacarini.
Retrouvez le meilleur contenu de Boulevard 102.1 sur notre page YouTube. Abonnez-vous.
Depuis 20 ans, Enoya offre des services de qualité pour les jeunes de 0 à 18 ans. Une équipe de professionnels dynamiques, passionnés et à l'écoute de vos besoins. Ergothérapie, psychoéducation, orthophonie et bien d'autres. Visitez enoya.qc.ca pour en savoir plus sur nos services et formations.
Laissez Bouffe et compagnie s'occuper du souper. Repas savoureux prêts en quelques minutes et renouvelés chaque semaine. Fini les casse-têtes. Bouffe et compagnie s'occupe de tout. Bouffe et compagnie, authentique et gourmand depuis plus de 10 ans. Bouffe et Volkswagen.com.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Vous avez une idée, un projet, une ambition? À l'École d'entrepreneuriat de Québec, tout est en place pour vous aider à les concrétiser. Formation pratique, accompagnement sur mesure et ressources concrètes pour faire évoluer votre entreprise. AEC en démarrage et gestion de son entreprise, comité aviseur, formation sur mesure ou encore la location de bureaux et d'espaces de coworking à taux avantageux. À chaque étape de votre parcours, l'EEQ est à vos côtés pour vous faire progresser. L'École d'entrepreneuriat de Québec, votre partenaire de A à Inc. Visitez écoleentrepreneuriat.com.
Envie de reprendre de saines habitudes? C'est le temps d'essayer Mon Club Avantage. Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton et bientôt du pickleball.
Au Club Avantage Multisport, on a votre santé à cœur depuis 46 ans. Clubavantage.ca.
Projet de construction ou de rénovation en vue, Armoire Lévis transforme vos idées en réalité et ce depuis plus de 45 ans. Cuisine, salle de bain ou rangement, nos armoires sur mesure allient style, fonctionnalité et qualité. Venez nous rencontrer sur Président Kennedy à Lévis ou visitez armoirelévis.com.
Chez Desjardins, on croit que le REER et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour David ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI.
De quoi on parle?
De cotiser un REER et d'utiliser le remboursement d'impôt pour alimenter le CELI à l'abri de l'impôt.
Ça réveille du bon pied.
Cotisez en ligne dès maintenant sur desjardins.com/REER-CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent.
Vous cherchez un appartement à Sainte-Foy? Chez Immeubles Roussin, les unités sont toujours bien situées et plusieurs ont été fraîchement rénovées. Résultat, elles partent très rapidement. Réservez avec un groupe immobilier de renom où le service est une priorité. ImmeubleRoussin.com.
Du dimanche au mercredi chez Québec Brou, mangez du tap de bon manger toute la journée pour 9,99$. Spaghetti, grosse poutine, assiette paire à la viande, assiette hot hamburger. Hey, ça donne faim, ça! En plus, c'est juste 9,99$.
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Profitez de grands rabais chez Grèche et Scaff. Jusqu'au 25 janvier, économisez de 30 à 50% sur les montures de grandes marques à l'achat d'une paire complète. Oui, jusqu'à 50% de rabais. Chantal Gravel, opticienne, réservez votre examen ou apportez votre prescription chez Grèche et Scaff.
Salut, c'est Catherine. Le 22 janvier aura lieu la grande conférence expérientielle Y a pas de hasard au Capitole de Québec. Cette belle folie est rendue possible grâce à la participation de Momentum Refuge Nature à titre de commanditaire officiel. Pour d'autres dates, rendez-vous sur catherinebachand.com.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Telio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Telio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Nouvelle année, nouvelle image. Avec Catherine Potvin Photo, renouvelez votre présence professionnelle grâce à des photos corporatives percutantes, des captures de designs intérieurs soignés et du contenu sur mesure pour propulser votre entreprise. Catherine Potvin Photo, votre image à son meilleur.
L'offre extra est arrivée chez Bénin Compagnie. À l'achat d'un repas cuisse ou d'un repas poitrine à prix régulier, vous obtenez une soupe ou on remplace votre frite par une poutine gratuitement. C'est ça l'offre extra. Parce que chez Bénin Compagnie, on a le poulet généreux. Pour un temps limité seulement.
En 2026, ne laissez pas vos genoux vous freiner dans vos activités sportives en optant pour une orthèse. À la clinique Roy Boivin orthésiste, on vous conseille selon vos besoins pour vos orthèses en tout genre et vos bas de compression. Toute l'équipe vous souhaite bonne année.
Chez Uniprix, vous trouverez des produits qui simplifient votre quotidien et vous font économiser. Jusqu'au 21 janvier, profitez des rabais sur une foule de produits de nos marques privées. Des essentiels de tous les jours, des soins, des produits pour la maison, des gâteries. Les marques Option Plus, Nochico, Kit et Savi sont d'une qualité exceptionnelle à bas prix. Magasinez chez Uniprix et économisez avec nos options gagnantes. Envie d'économiser encore plus? Procurez-vous notre livret de coupons en succursale. Quantité limitée, succursale participante, détail au uniprix.com.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est littéralement un électrochoc qu'on a eu ce matin. On avait eu dans la salle des journalistes une information comme quoi François Legault avait convoqué tout le monde pour une conférence de presse à 11h. Puis là, on regardait la date, 14 janvier. Qu'est-ce qu'il a annoncé un 14 janvier? Puis en faisant aller nos contacts, on a su très rapidement que François Legault allait démissionner. Et c'était assez particulier, tellement que dans la salle où j'étais, on jasait, puis il y a des gens qui y croyaient pas. Et finalement, ben, tout ça s'est avéré vrai. François Legault qui nous annonce qu'il quitte après pas mal d'années en tant que chef de la Coalition Avenir Québec. En fait, c'est lui qui est cofondateur de la Coalition Avenir Québec avec d'autres collègues de l'époque. Je pense entre autres à Charles Sirois qui était là au premier jour de la Coalition Avenir Québec, qui est un gars super sympathique. Donc, François Legault qui décide de quitter, de laisser son bébé à un autre ou à une autre, il y aura nécessairement une course à la chefferie. Mais c'est un méchant électrochoc parce que on l'avait entendu au mois de décembre. Nous, on l'a eu à l'émission au mois de décembre. Et il nous a dit, écoutez, moi, je vais être là pour les prochaines élections. Il était hyper motivé, bien que les sondages n'étaient pas de son côté. Il voulait quand même y aller de l'avant. Et là, ben, on se ramasse avec un sondage qu'on peut lire sur l'actualité où François Legault est à peu près à la même hauteur dans les intentions de vote que Québec solidaire, ce qui est catastrophique. Donc, il y a beaucoup d'emplois là, qui dépendent de la Coalition Avenir Québec. Il y a beaucoup de députés aussi sous la bannière de la Coalition Avenir Québec qui ne veulent pas perdre leur job. Donc, j'imagine qu'avec ce sondage-là, ils se sont réunis, toute la gang, puis on dit à François, ben, peut-être que ce serait le temps de quitter. François Legault qui a fait une conférence ce matin en disant qu'il quittait pour le bien de la Coalition Avenir Québec et pour le bien du Québec. C'est pas une mauvaise chose. Quand on regardait là, le taux d'appréciation de François Legault, je pense qu'il y a 75% des gens qui ne l'appréciaient plus. Donc, c'était temps pour lui de quitter. Il va rester en place, bien entendu. Qui sera la personne qui va le remplacer? Ben, je vous en jasais tantôt avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Il y en a un qui va... C'est un nom qui va revenir souvent, mais de source sûre, pas mal certain qui ne se présentera pas. Les gens veulent voir Mario Dumont. Mario Dumont qui était chef de l'ADQ, qui était un très bon chef de l'ADQ, qui était un bon gars qu'on a entendu à l'Assemblée nationale aujourd'hui et animateur de radio. Il fait l'émission du matin à Montréal et je peux vous dire qu'en regardant les statistiques au niveau de l'écoute à Montréal, ça va bien, Mario Dumont. Donc, d'après moi, il est hors de question que Mario se présente pour être un jour chef de la Coalition Avenir Québec, du moins pour les 4-5 prochaines années. Ça semble bien aller pour lui dans son show du matin. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances dans son show du matin. Il travaille très fort, puis il va réussir à être premier dans les prochains mois, j'en suis persuadé. Donc, qui on voit à la succession de François Legault? Christian Dubé a annoncé qu'il quittait. Christian Dubé est rendu trop vieux, il est tanné, il est indépendant de fortune, lui, il quitte. Geneviève Guilbeault va probablement, effectivement, être sur la ligne de départ. Est-ce que Geneviève Guilbeault pourrait être appréciée des membres de la Coalition Avenir Québec? C'est une bonne question. Il ne faut pas se fier aux billets qu'on peut avoir. Il ne faut pas se fier à notre entourage. Moi, de mon côté, je ne vous mentirai pas que Geneviève Guilbeault, c'est vraiment pas la préférée des gens de mon entourage. Est-ce que de votre côté, c'est la même chose? Donc, Geneviève Guilbeault, il y a d'autres candidatures qui pourraient être quand même assez intéressantes. Sonia Lebel qui est une avocate qu'on a vue dans une commission où elle a quand même très, très bien paru. Je pense que c'était la commission Charbonneau de mémoire. C'est une bonne communicatrice. Elle se présente bien. Elle est au courant de ses dossiers, travaille extrêmement fort. Est-ce qu'elle pourrait être là? J'en suis persuadé. Et sinon, Simon Jolin Barrette aussi qui devrait vouloir se présenter à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Fait que c'est les noms qui circulent aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'en envoyer. Écrivez-moi sur Messenger. Ce serait bien intéressant de vous lire tout de suite après l'émission. Donc, c'était la grosse nouvelle de la journée. C'était l'éclipse médiatique de la journée. Des fois, les journées commencent très tranquilles. Faites ma tournée des médias ce matin. Il faut dire que je me lève très tôt. Je me lève aux alentours de 2h45, 3h. Puis je me disais, bon Dieu, que c'est tranquille. Et que la journée est tranquille. Sauf qu'il y avait le sondage Palace dans l'actualité qui risquait de faire jaser, de faire bouger les choses. Est-ce que c'est ce sondage-là qui a fait en sorte que François Legault a lu ça ce matin et a dit « c'est beau, je dégage », je ne sais pas. Est-ce que c'était prévu d'avance? J'en suis pas persuadé. Est-ce que les gens voulaient le voir quitter? La réponse, c'est oui. Puis, si c'était un de vos vœux pour la nouvelle année, sachez que ça a été exaucé. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci d'être bien présent sur les ondes hertziennes à écouter les podcasts de Marceau Soir. Vous êtes de plus en plus à chaque sondage. Puis je voudrais remercier les gens qui m'aident pour ce podcast-là parce que j'ai Pascal Caron-Vézina que vous connaissez, que vous entendez une fois de temps en temps, qui fait le booking de ces émissions-là. Donc si vous entendez de bons invités, somme toute grâce à elle. Puis, je peux peut-être prendre un 10% de crédit. Je lui laisse le 90%. Donc, passez une belle soirée. Pas de match du Canadien ce soir. C'est demain contre les Sabres de Buffalo. Donc, le match va se représenter à 19h. Fait que je vais aller écouter ça demain. Mais sinon, ce soir, on va se reposer. Petite grippe, je pense que vous pouvez l'entendre avec la voix que j'ai ce soir. On va aller tenter de guérir ça avec des recettes de grand-maman. Voilà. C'était une ponce de gin, pensez-vous ça? Ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'elle me disait. Ben, essayez ça ce soir, puis je vous en reparlerai demain. Salutations tout le monde. Bye bye.
Marceau, le soir.
Du 6 au 15 février, c'est le Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec et vous pouvez le vivre autrement. Assistez au défilé de nuit confortablement assis dans nos estrades réservées. Chantez à tue-tête en zone avant-scène de la scène Loto-Québec, vivez les ateliers de sculpture sur glace présentés par Banque Scotia et dansez en mode country au manège militaire Voltigeur de Québec en collaboration avec le Festival Western de Saint-Tite. Les places sont limitées. Réservez au carnaval.qc.ca.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant! Découvre nos programmes en graphisme, animation 3D, informatique, photographie, cinéma et droit, ainsi que nos nouveaux decks préuniversitaires en arts, lettres et communication, avec 4 profils créatifs. Plusieurs formations sont aussi offertes en ligne. Détails au barthes.ca.
Du 5 au 25 janvier, le rabais météo est de retour chez Ashton. Plus de 100 000 $ en prix à gagner, tels qu'une location de voiture, un forfait voyage, une piscine et plus encore. Merci à nos précieux partenaires. Ashton, frais, vrai.
Pour traiter des douleurs aux pieds et aux chevilles, des ongles incarnés, une verrue plantaire ou pour des orthèses ultra minces, Piérézo Rive-Sud qui fête ses 6 ans cette année est là pour vous. Rencontrez une podiatre rapidement pour un meilleur soulagement. Aucune prescription médicale requise. Piérézo Rive-Sud, Saint-Romuald.
Notre métier, c'est l'éco-responsabilité. On régénère les matières. On aide à créer un monde meilleur pour les générations futures. Pourquoi? Parce que nous autres, on régénère. Votre partenaire en solutions environnementales.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois Courtier Immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégies qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Tu veux travailler en mécanique, mais t'as pas la formation qu'il faut? Chez Groupe Labrie, deviens assembleur mécanique pour avoir la possibilité de suivre une formation reconnue afin de devenir mécanicien de production chez nous. Développe tes compétences
tout en étant payé pour apprendre. Info au groupelabri.com.
Nouvelle année, nouvelle image. Avec Catherine Potvin Photo, renouvelez votre présence professionnelle grâce à des photos corporatives percutantes, des captures de design intérieur soignées et du contenu sur mesure pour propulser votre entreprise. Catherine Potvin Photo, votre image à son meilleur.
Le Fonds de solidarité FTQ, c'est plus de 800 000 épargnantes et épargnants qui se disent
« Lâche pas, moi je sais où je m'en vais. »
Qui se tiennent debout, qui épargnent pour leur retraite ici parce qu'ils
« Lâche pas, j'attends pas de crever. »
Pour que nos entreprises restent solides, que nos jobs restent ici, parce qu'ils...
Lâche pas, moi je sais où je m'en vais.
Et c'est seulement en investissant en nous qu'on pourra réussir.
J'lâche pas.
Au Fonds de solidarité FTQ, on lâche pas pis on se lâche pas.
Samedi 20h à Télé-Québec, pour une fois avec...
Kim Lévesque-Lisotte!
Interviewé par Bruno Marchand.
Est-ce que tu ferais de la politique?
C'est impossible que je fasse pas de politique.
Marilène Gendron.
Depuis qu'il y a un être humain qui est sorti de mon vagin, Marilène, tout est possible.
Magali Picard.
C'est beaucoup d'argent qu'on pourrait mettre dans des fonds d'investissement.
Et François Bellefeuille.
Je veux absolument te voir faire un one-man show.
It's a deal.
Une soirée forte en conviction. Pour une fois avec Kim Lévesque-Lisotte. Samedi 20h, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Chez Laval Volkswagen, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend chez Laval Volkswagen.
Boulevard.
Si t'as déjà gamé, tu sais comment peser pause puis play. C'est de même que ça marche la web radio de Boulevard au blvd.fm.
Boulevard 102.1, it's in the game.
Les débrouillards et la boîte à science font vivre la science autrement. Chaque année, plus de 35 000 jeunes participent à leur atelier, activités et fêtes scientifiques. Toute la programmation vous attend sur boiteascience.com avec encore plus de contenu sur leurs réseaux sociaux. Bonne année à tous les jeunes, parents et enseignants.
Dans les Etchemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando et de motoneige, des endroits pour glisser, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. tourismeetchemins.qc.ca.
Imaginez l'hiver dans toute sa beauté. Chalet magnifique, spa, feu de bois, motoneige, traîneau à chien. Tout ça vous attend au Chalet en Boiron. Du 5 janvier au 26 février, profitez de 20% de rabais en semaine. Réservez votre séjour au chaletenboiron.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Armoire AD+ vous donne rendez-vous à Expo Habitat du 5 au 8 février. Venez découvrir notre beau kiosque et vivre une expérience immersive unique pour imaginer vos projets d'armoire, de cuisine et de salle de bain. Inspiration, innovation et conseils vous attendent sur place pour concrétiser vos idées.
T'as toujours pensé que courir à nouveau sans douleur, c'était impossible? Ben moi, je connais du monde chez PCN qui m'ont aidé à rendre ça possible. Chez PCN Physio, ils t'aident à retrouver ce que tu pensais avoir perdu. PCNphysio.com.
L'offre extra est arrivée chez Bénin Compagnie. À l'achat d'un repas cuisse ou d'un repas poitrine à prix régulier, vous obtenez une soupe ou on remplace votre frite par une poutine gratuitement. C'est ça l'offre extra. Parce que chez Bénin Compagnie, on a le poulet généreux pour un temps limité seulement.
Salut, c'est Chloé de Dondère, votre courtier immobilier Remax. Achetez ou vendez avec moi, ça se fait dans le plaisir. Je serai dédié à vos besoins et à l'écoute de vos questions. Faites de votre projet immobilier une expérience trippante. Retrouvez-moi donc sur Facebook, Chloé de Dondère, courtier immobilier Remax.
Choisir un condo locatif, c'est choisir la tranquillité sans compromis. À Sainte-Foy et à Lévis, les Immeubles Roussin vous proposent des condos locatifs conçus pour le confort, la qualité et le service. Un standard élevé et assumé. Immeubleroussin.com.
Lévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute. 500 postes à combler dès maintenant. Soudeurs, constructeurs navals, assembleurs mécaniques, tuyauteurs et plombiers sont recherchés. Avec des projets jusqu'en 2040 et des conditions solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule au lévisrecrute.ca.
Le 29 janvier dès 18h30, le cégep de la Pocatière t'invite à ses portes ouvertes. 15 programmes à découvrir. Audioprothèse et génie physique à la Pocatière, acupuncture et régie et technique scénique à Montmagny. Viens explorer, t'inspirer et créer ton futur.
102.1.
Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui.
Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Oh, oui. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine.
100% talk.
Boulevard 102.1.
Remember when the streetlights came on and we had to be home? Remember when Elm Street came on, couldn't watch it alone? Remember every prank we made at Star 69? Remember trying to 888 to go back in time? Remember when they played Purple Rain to our first slow dance? Remember when we thought that first base was just home? Those days come back in the dead of night. Those days that felt like another life. What would you be doing back in those days? We'd be turning up the stereo. Guns N' Roses came out.